Bonjour et bienvenue sur Au cœur du couple, le premier podcast qui vous donne la parole sur votre vie de couple. Je suis Soazic Castelnérac, créatrice du concept Save Your Love Date.
Je suis Marie-Lise Richard, psychologue et thérapeute de couple.
Ensemble, nous voulons vous écouter, vous interroger, nous interroger sur les difficultés que vous vivez au sein de votre couple.
Mais nous souhaitons aussi vous éclairer, vous proposer des pistes de réflexion et des actions concrètes pour que votre couple s'en nourrisse.
Notre croyance, oui, l'amour peut durer toute une vie et le couple peut être un lieu de bonheur, d'épanouissement et de bonification.
Mais rien ne pourra se faire sans vous, sans votre investissement, votre temps et votre volonté. Notre premier conseil sera donc de prendre le temps d'écouter ces épisodes à deux, puis d'en discuter, voire même d'en débattre.
Ne reste qu'à vous souhaiter un bon et inspirant moment avec nous. Beaucoup d'émotions aujourd'hui au micro d'Au cœur du couple. Nous recevons Manon qui est venue vers nous avec une question relativement classique. Mon couple me manque et nous ne parvenons pas à confier notre fils de 2 ans pour nous octroyer de vrais moments à deux. En discutant avec Manon, nous avons mieux compris la source de cette difficulté à confier leur garçon. En effet, Manon a vécu une grossesse et un accouchement très compliqués. Elle et son conjoint ont même cru perdre leur bébé le jour de sa naissance. Puis s'en sont suivis des mois d'angoisse, de fatigue et même de dépression. Si Manon a eu du mal à investir son rôle de mère, Florian, lui, a surinvesti sa place de père. Aujourd'hui, ils ont tous les deux envie de se retrouver, mais cela passe nécessairement par la capacité à confier leur petit Samuel pour pouvoir se libérer du temps. Alors, comment redonner une vraie place à son couple lorsque l'on en a perdu l'habitude? C'est la question à laquelle nous allons réfléchir ensemble dans ce nouvel épisode d'Au cœur du couple. Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Au cœur du couple avec Marie-Lise bien évidemment. Bonjour Marie-Lise.
Bonjour Soazic, contente de te retrouver en France.
Oui.
Et d'être là à tes côtés.
C'est vrai, on dit en France parce qu'on vient de faire 3 jours avec Marie-Lise à Londres. On est allé faire une conférence autour notamment de notre livre « Les 5 clés de l'amour durable ». Le thème était « Comment cultiver un amour responsable, durable et désirable ». Tout un programme. Je pense qu'on aura l'occasion de vous en reparler prochainement. Et puis nous accueillons aujourd'hui également Manon. Bonjour Manon.
Bonjour.
Alors merci d'être venu vers nous aujourd'hui pour parler ensemble de la difficulté que vous rencontrez au sein de votre couple. J'en dis pas plus pour le moment parce que je vais te laisser déjà te présenter à nous.
Bonjour tout le monde. Alors je suis Manon, maman de Samuel qui a 2 ans depuis hier, qui a eu 2 ans hier. Je suis psychomotricienne en cabinet libéral, et je vis avec mon conjoint Florian depuis 6 ans maintenant.
Parfait, super. Est-ce que tu peux nous, en quelques mots, nous faire un petit portrait de votre couple?
Alors du coup, on est deux passionnés de volleyball, on s'est rencontrés au volleyball. Moi, je suis aussi passionnée de beach volley. On a été du coup beaucoup à la salle de sport. Quand je dis beaucoup, c'est quasiment tous les soirs et tous les week-ends sur des matchs, des rencontres, des sorties entre copains. Et c'est naturellement qu'on s'est rencontrés et qu'on a décidé de s'installer ensemble. Le feeling est passé vite et très bien. On a décidé d'avoir un enfant ensemble tous les deux il y a quelques années, mais malheureusement, ma maman est tombée malade. Du coup, on a décidé de reporter ce projet bébé pour pas tout mélanger. Et voilà, on s'est installé à Villeneuve-d'Ascq, on a acheté une maison et on a eu Samuel, du coup, il y a 2 ans.
Bon, alors, quand tu en parles comme ça, tout a l'air assez parfait, oui, assez idyllique. Est-ce que tu peux nous dire ce qui t'amène à nous aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, ce qui m'amène à vous, c'est que donc depuis 2 ans, même plus 2 ans et la grossesse, je dirais, parce que j'ai eu une grossesse compliquée, on n'a pas eu de moment de couple d'hommes et de femmes, non, donc du coup de pas de parents, mais on n'a pas eu de moment de couple depuis 2 ans. Et c'est quelque chose qui me pèse au quotidien, qui pèse aussi à mon conjoint, et on n'arrive pas à l'heure actuelle à trouver de solution pour pouvoir trouver des moments où on se retrouve ensemble, ne serait-ce qu'une heure, et qu'on soit épanoui, parce qu'on a beaucoup de mal à lâcher notre petit garçon, on a beaucoup de mal à le confier à quelqu'un d'autre. Et c'est vraiment quelque chose qui nous pèse aujourd'hui.
Quand tu dis on n'a pas trouvé de solution, bon ça, on va en discuter ensemble et t'es là pour ça, pour qu'on puisse t'aider. Mais vous avez analysé d'où venait cette difficulté que vous aviez à vous retrouver.
Alors, si je résume, si je fais la petite histoire, donc je suis tombée enceinte, on a su très tôt que j'étais enceinte, enfin 5 semaines, parce que j'ai eu des vomissements gravidiques. Donc je me suis retrouvée en arrêt de travail, alité. Quand je dis vomissement gravidique, c'est vomissement 20 à 30 fois par jour minimum. C'était vraiment l'horreur. Et ça a duré comme ça pendant plus de 3 semaines, parce qu'on n'arrivait pas à trouver le traitement adapté qui me convenait, qui me faisait du bien. Et du coup, j'ai eu une perte de 8 kilos là-dessus, donc avec du coup une hospitalisation à domicile, avec une surveillance de poids et de prise de sang régulière. Et en fait, moi, j'étais vraiment dans une culpabilité de me dire, je mange pas, donc mon bébé, il peut pas se nourrir, donc mon bébé, il va mal se développer, ce qui était absolument faux, hein, évidemment, mais à ce moment-là, je ne savais pas. Et on a fini par trouver le traitement qui me convenait, où j'ai pu revivre, donc c'est-à-dire sortir de chez moi, marcher, me balader, discuter avec des gens. J'étais enceinte de 4 mois. Avant ça, j'étais toujours en surveillance ou de mon conjoint ou de mon papa. Donc le matin, mon conjoint partait au travail, il me déposait chez mon père, j'étais chez mon père, je dormais, il me récupérait le soir. C'était vraiment compliqué. Et puis là-dessus, je fais ma grossesse, j'ai retravaillé un mois et demi à peine, mais j'étais tellement épuisée par tout ce qu'on venait de vivre, et sur le plan psychologique et sur le plan physique, qu'on m'a remis en arrêt. Et à 5 mois et demi, on m'a dit que Samuel était déjà bien engagé, il était déjà bien bas. Donc il fallait que je me repose le plus possible pour éviter une prématurité. Donc je me suis reposée, et comme le traitement marchait bien, j'ai pu remanger, et là-dessus j'ai pris 13 kilos. Donc ça a été vraiment très compliqué pour moi sur ce plan-là. Et puis c'est tout, on fait nos 9 mois de grossesse comme ça, avec un traitement matin, midi, soir. Une grossesse qui était quand même très médicalisée, je ne m'y attendais pas du tout, je n'étais pas du tout prête à rentrer dans ce cycle-là. Et puis vient 40 semaines de grossesse, contraction, contraction, contraction. J'avais une contraction toutes les 2 minutes 30 pendant 5 jours. Sans ouverture de col, enfin j'étais dilatée à 2,5, ça bougeait pas. Et au bout de 5 jours, j'ai crié au secours parce que j'en pouvais plus, j'étais épuisée, j'avais mal, je pouvais pas dormir, je pouvais pas manger, je pouvais plus vomir parce que j'avais trop mal. Et du coup, les sages-femmes ont décidé de me déclencher parce que, de toute façon, il n'y a rien qui bougeait. Et j'ai réussi, j'ai eu du coup 4 ou 5 déclenchements, je me souviens plus. Au moins 4 déclenchements. Et après 18 heures de travail, césarienne d'urgence. Et en fait, à ce moment-là, ma péridurale s'est décrochée. Donc, je me suis retrouvée dilatée à 9, sans péridurale, pas prévue, pas anticipée, pas par là. Donc, je suis tombée un peu aux enfers. Là, c'était très compliqué. Et au moment où cette péridurale lâche et où j'ai des contractions qui sont très fortes, on me dit que Samuel va arriver et qu'il faut pousser. Donc, je pousse. Et très rapidement, on passe de 3 dans la salle de naissance à 10. Et les médecins arrivent un peu en furie en me disant « Madame, votre fils ne va pas bien, il faut se préparer au pire. » Donc là, c'est vraiment la descente aux enfers et on part très vite en césarienne. Mon conjoint et moi, on est séparés, je comprends pas ce qui m'arrive. On me place sur la table, on me met des bolus d'anesthésie, on m'ouvre en deux. Enfin, j'ai pas suivi ce qui s'était passé. Dans l'urgence extrême, mais tout ce que j'avais en tête, c'est mon fils, fini, ça va mal se passer. Et puis donc, on fait la césarienne, on me retire mon fils de mon ventre, on part avec mon fils, et puis je sais pas ce qui se passe pendant 20 minutes. J'ai pas d'infos, j'ai pas de nouvelles, j'ai pas d'explications. Et je finis par apprendre d'un interne qui était à côté de moi, qui me demande pourquoi je pleure, qu'en fait mon fils va très bien, qu'il est en parfaite santé, qu'il va bien, qu'il est avec la pédiatre et son papa à côté, et que tout roule. Sauf que c'était pas du tout ce que j'avais en tête. Donc voilà, et puis on remonte en chambre, et puis rapidement, Samuel n'arrive pas à téter parce que il est plein d'anesthésie lui aussi, hein, il est sous anesthésie, et on me fait des reproches que je le mets pas au sein, que j'y arrive pas, madame, faut faire un effort, faut essayer, sachant que c'est la période de Covid, hein, on est en janvier 2022, l'équipe est sous effectif, toutes les chambres sont stériles, c'est très compliqué. Donc j'ai pas d'accompagnement, donc on me propose de couper la montée de lait et de passer au biberon parce qu'elles n'ont pas le temps de s'occuper de moi. ce qui va être fait, du coup, un peu contre ma volonté. Et puis, on rentre à la maison quelques jours plus tard, et puis on est tout de suite très, très fusionnel avec Samuel, parce qu'on a eu très, très peur. Moi, j'ai beaucoup de mal à m'attacher à lui, donc sur le plan des soins, il n'y a pas de problème, mais sur le plan d'attachement émotionnel, je refuse. De façon inconsciente, bien sûr, à ce moment-là, je ne me rends pas compte. J'ai tellement peur de le perdre que je refuse de m'attacher à lui. Et pour moi, je descends encore plus bas. C'est la dépression postpartum qui pointe le bout de son nez, et puis avec un gros baby blues. Et en fait, je suis au fond du trou pendant plusieurs mois à ce moment-là. J'ai aucun plaisir à être dans la maternité. Aucun. Je subis complètement mon fils et tout ce qui suit. Et c'est au bout de quelques mois, 2-3 mois, que je décide de me faire suivre et de commencer une thérapie parce que je sens bien qu'il y a un truc qui va pas. Et en fait, c'est mon conjoint qui a dû prendre le relais à ce moment-là. Et du coup, il a vraiment bien pris le relais, cette étape. Mais il a créé une relation très, très fusionnelle avec Samuel. Et on en est arrivé à un stade au fil des semaines, au fil des mois, où il a fini par bercer Samuel pendant des heures et des heures, toutes les soirs, toutes les nuits. C'est lui qui faisait les soins. Moi, j'étais vraiment la tête dans le guidon. C'était très compliqué. Et puis, on apprend à 18 mois que Samuel a un reflux. Parce que à 18 mois, il a encore 10, 12 réveils par nuit, des pleurs, des bercements en poussette. Et là, moi, en fait, c'est tellement au-dessus de mes forces dans ces périodes-là que c'est papa qui fait les nuits parce que moi, je peux plus, en fait, sur le plan émotionnel, sur le plan nerveux, sur la fatigue. C'est très compliqué. Ce que j'ai pas dit, c'est que je suis en libéral, j'avais une remplaçante pendant ma grossesse qui m'a laissé tomber à 9 semaines de naissance de Samuel, où j'ai dû reprendre le boulot à 9 semaines. Un déchirement, c'était quand j'étais pas prête du tout sur le plan psychologique. Donc en fait, on vit tous ces mois avec une grosse ambivalence de je ne veux pas quitter Samuel parce que c'est mon bébé, que je veux être près de lui, que je veux le sentir, je veux le toucher, et en même temps je veux plus être avec lui, c'est insupportable, j'y arrive plus, je suis épuisée. Et mon conjoint qui passe du coup toutes ses nuits, tout son temps avec lui, qui est très fusionnel, encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mon conjoint, il est capable de me dire, il a toussé 3 fois, il a éternué 4 fois pendant la nuit.
Ouais, j'allais te demander, parce que tu nous as dit que Samuel venait d'avoir 2 ans, où est-ce que toi t'en étais et où est-ce que ton mari en était sur cette relation à votre enfant, toi déjà?
Alors, moi, j'en suis une relation beaucoup plus saine, un attachement qui s'est mis en place, j'ai beaucoup de plaisir à passer du temps avec lui, c'est relativement récent, hein, c'est de 4-5 mois. Hein. Mais voilà, je peux être seule avec lui sans problème, je peux me le coucher, je peux m'en occuper, j'ai encore beaucoup de mal à gérer les pleurs la nuit, c'est encore très difficile pour moi, ça envoie des choses encore très dures à supporter, mais globalement, ça se passe bien. Ça y est, on a vraiment créé une relation saine et je me sens bien avec lui. Pour son papa, c'est plus compliqué. La séparation est très compliquée. L'autorité est très compliquée. Quand c'est non, ben, il finit toujours par céder. Il a toujours l'impression que s'il le dispute ou s'il lui dit non, que, bah, Samuel, il va plus l'aimer. Enfin, je caricature, mais c'est ça, hein, de toute façon. Et quand on est ensemble, tous les trois, Samuel est très concentré sur son papa. Alors pour jouer, etc., ça va, hein. Mais dès qu'il va se blesser, dès qu'il y a un bobo, dès qu'il y a besoin de soins, dès qu'il y a besoin d'amour, ça va être beaucoup sur son papa. Moi, j'ai pas beaucoup de la place là-dedans. Si son papa est pas là, ça va, mais voilà où on en est un petit peu aujourd'hui. Et les nuits, par contre, il y a toujours un matelas au sol, à côté du lit de Samuel, pour son papa puisse dormir avec lui. On essaie de se détacher un petit peu, mais c'est compliqué.
Oui, il peut passer des nuits dans la chambre de Samuel.
Ah, ça fait plus d'un mois qu'il dort toutes les nuits avec Samuel dans la chambre.
D'accord, avec l'idée de pour les réveils nocturnes, pour être
alors,
près de lui.
C'est dû au réveil nocturne. Alors aussi parce qu'on sent que Samuel est un bébé qui est assez angoissé. On se demande pourquoi. Et aussi parce que papa, bah, il en peut plus de se lever la nuit. Hein. Il est en fait, son papa quand il dort avec moi dans le lit, donc dans la chambre d'à côté, il est un peu en hypervigilance. Il n'a pas un sommeil profond. Il est toujours un peu à l'affût. Alors que quand il dort près de Samuel, bah, il dort profondément parce qu'il est disponible en cas de besoin tout de suite, quoi.
Et comment tu le vis, ça, toi? C'est quelque chose que tu comprends? Ça te pose aucun problème? Ou quand même, t'aimerais retrouver ton conjoint dans ton lit?
Alors, j'aimerais beaucoup retrouver mon conjoint dans mon lit. Et en même temps, j'aimerais beaucoup pouvoir dormir simplement. C'est-à-dire qu'il y a une partie de moi qui a très envie de retrouver mon conjoint dans mon lit. Et il y a une partie de moi qui est bien contente, qui dorme avec Samuel, parce que du coup, moi, je peux dormir. C'est encore ambivalent, quoi.
Ouais, c'est ambivalent encore. Est-ce que tu peux nous dire, merci déjà d'avoir si bien présenté la situation. On sent quand même de l'émotion encore quand tu en parles, mais l'émotion et en même temps on sent qu'il y a beaucoup de choses qui ont été travaillées et que t'en parles quand même sereinement par rapport à ce que ça peut représenter, tu vois, de souffrance, de douleur quand tu te remémores ça. Votre couple, vraiment, si on se concentre sur votre couple, comment est-ce qu'il a vécu ces deux dernières années?
Très mal. On a gardé en tête tous les deux, genre je sais plus dans quel livre j'avais lu que la première année de bébé est compliquée, qu'il faut pas séparer la première année de bébé. Je sais plus. Hein. On est resté là-dedans. Il faut pas qu'on sépare, il faut qu'on tienne bon, ça va passer. Énormément de disputes, mais des disputes un peu sans queue ni tête, parce qu'en fait je te veux mais je te veux pas. Comme ce que je viens de dire là, en fait, je veux que tu dormes avec moi, mais en même temps, je veux pas que tu dormes avec moi parce que tu dors avec Samuel et ça me va bien. Et ça a été beaucoup ça, et on a eu beaucoup de mal. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à retrouver ma place de maman quand je suis revenue de ma dépression de postpartum. J'avais l'impression que Florian était le papa et la maman. C'est difficile pour moi de trouver un peu ma place là-dedans. Très dur aussi que parfois Samuel va vers son papa et pas vers moi. Du coup, au niveau du couple, il y avait un peu de jalousie, enfin un peu d'incompréhension, qui est qui fait quoi. Donc on l'a, en tant que couple, j'ai envie de dire, il y avait même plus de couple en fait pendant ces 2 ans. On était un papa et une maman, et pas forcément toujours en équipe.
Qu'est-ce qui vous a donné le déclic là, de vous dire en fait, tu me manques et notre couple me manque et je veux repasser du temps avec toi? J'ai l'impression que quand tu nous l'as présenté au tout début, c'était assez réciproque. Hein. C'était un manque que vous ressentez tous les deux, une volonté que vous avez tous les deux. Est-ce qu'il y a eu un déclic? Qu'est-ce qui a fait qu'un jour, vous vous êtes dit ça?
Alors, pour le coup, Florian, il est plus dans... il en a envie, mais c'est pas le moment. Il n'a pas le temps. On peut pas se préoccuper de ça tout de suite. Donc lui il... bien sûr qu'il en a envie, mais il va pas trop en parler, il va pas trop en discuter. Alors que... moi, le déclic, c'est vraiment les colères. J'ai beaucoup de colère, on se dispute fort. Et en fait, je me rends compte dans nos disputes que je vais lui reprocher tout et n'importe quoi, alors qu'en fait, ma seule demande, c'est d'être prise dans les bras, c'est de l'affection, c'est de retrouver de l'amour, parce que j'en ai besoin, en fait. Enfin, on est arrivé à un stade, tous les deux, où on a besoin d'affection et on est en manque d'affection, tout simplement.
Est-ce que tu arrives à lui exprimer ça en dehors de tes colères?
Oui, complètement. Mais le problème, c'est que ça arrive toujours après la colère. C'est toujours, on se dispute pour souvent une broutille, et une heure après, je lui dis, mais en fait, là, j'avais juste besoin que tu me prennes dans tes bras, ou que tu m'écoutes, ou je ne sais quoi. Et on n'a plus du tout de place pour ça. De toute façon, quelque part, même, j'ai envie de dire, on ne sait plus comment faire. Hein. Enfin...
Comment est-ce qu'il réagit, Florian, quand tu lui dis ça?
Il me dit, mais moi aussi. Moi aussi, j'ai envie d'être dans tes bras. Moi aussi, j'ai envie qu'on se retrouve. J'ai envie qu'on se touche. J'ai envie qu'on ait des moments à deux. Lui aussi, hein. Il en a très envie.
Vous en avez l'envie, mais malgré ça, vous vous donnez pas pour autant, vous fixez pas pour autant le soir même un petit tête-à-tête tous les deux.
Alors non, parce que d'un point de vue pratico-pratique, c'est très compliqué. L'endormissement avec Samuel reste encore compliqué. C'est-à-dire qu'on se retrouve à deux dans la même pièce pas avant 22 heures. Et étant donné qu'on est épuisé, moi, à 22h30, je suis couchée, en fait. Mais de toute façon, Florian aussi. Florian, ça arrive souvent que quand il couche Samuel, il s'endort aussi avec lui, en fait, parce qu'il est épuisé. Le fait de lire une histoire, faire un câlin, faire un bisou à Doudou, on s'endort. Donc ça, c'est compliqué. Et les moments de sieste, parce que du coup, moi, je réclamais un peu... Samuel fait encore la sieste pendant 3h30 le week-end. Donc, ce qui est quand même pas mal. Et moi, je disais à Florian, on pourrait utiliser ces moments de 3h30 pour profiter à deux, parce que moi, je fais pas de sieste. Et en fait, Florian fait la sieste. Et je me sens pas légitime de lui dire, prends sur toi, dors pas et reste avec moi. Donc, on a beaucoup de mal à trouver des temps ensemble. Et la seule façon, je trouve, ce serait de faire garder Samuel pour qu'on puisse avoir une heure ou deux en extérieur ensemble. Sauf qu'on n'a pas de famille autour de nous à qui on pourrait confier Samuel. Et de toute façon, famille ou pas, on n'arrive pas. On n'arrive pas à lâcher Samuel pour le confier à quelqu'un pendant une heure ou deux.
Depuis 2 ans, vous ne l'avez jamais confié? Vous ne l'avez jamais lâché l'un, enfin en même temps tous les deux, l'un l'autre, j'imagine que
on
oui.
On l'a fait deux fois parce que mon frère est revenu de Barcelone et on a toute confiance en lui. Mais ça arrivait deux fois une heure et demie, je dirais. Et parce que mon frère avait insisté. En disant, mais si, ça vous ferait du bien, vous en avez besoin. Et on était partis. Manger au resto et on n'était pas serein.
Et vous n'étiez pas serein. Mais ça, tu dirais quand même qu'à votre couple, ça lui a fait du bien.
Ah oui, complètement. Et on aime. Et en fait, c'est très contradictoire parce qu'on aspire à ça, on en rêve tous les deux, et en même temps, quand on se projette, on se dit mais à qui on va le laisser, comment on va faire, à qui on peut demander, c'est pas possible.
Donc là, en fait, on comprend dans ce que tu dis que vous sortez quand même d'une période, d'une période très difficile de par ta grossesse, ton accouchement, les premiers mois de Samuel, ta dépression postpartum. Tu as fait un travail là-dessus. On entend qu'effectivement, pour votre couple, ça fait 2 ans que vous vivez quelque chose de difficile, presque une crise, où tu le dis, votre communication passe beaucoup par de la dispute, par des cris, que malgré ça, il y a vraiment une envie de vous retrouver, de remettre de la tendresse entre vous, de revivre des moments à deux. Et puis, on comprend aussi que même si vous avez cette envie, ce qui vous empêche de consacrer du temps à votre couple, c'est de réussir à laisser votre enfant, parce que ça, il y a un détachement, une confiance en fait que vous n'avez pas à avoir, vous ne parvenez pas à avoir envers quelqu'un d'extérieur qui s'en occuperait. Donc effectivement, il y a...
C'est vraiment une peur qu'il se passe quelque chose. Enfin, pourtant, on sait que c'est pas rationnel, hein, mais c'est la peur. C'est vraiment la peur de pas être là, la peur qu'il se passe un truc et qu'on soit pas là.
Et puis les moments que vous pourriez avoir, parce que on peut tout à fait vivre des moments en couple sans quitter sa maison, sans laisser son enfant juste profiter du fait qu'il dorme, qu'il soit dans sa chambre. Et là, on voit aussi la difficulté que c'est pour vous, puisque au moment où il dort très bien à la sieste, eh bien, ton conjoint veut lui aussi en profiter pour se reposer. Et puis, effectivement, le soir, si votre enfant est là jusqu'à 22 heures, eh bien, vous n'avez plus l'énergie pour vivre ce moment-là.
Bah, en fait, si tu veux, c'est la routine du soir. Enfin, on rentre, patati patata, le bain, je sais pas quoi. Enfin, on joue. On va manger vers 19h30, 20h tous les trois ensemble. Et il se couche vers 21h, mais le temps de le coucher, de faire l'histoire, le machin, le truc, il est facilement, le temps que nous on mange derrière, il est facilement 22h. Enfin, ça va vite, quoi. Et à 21h30, 22h, on se regarde et on est fatigué, on a envie de rien. Parce qu'on a encore 4-5 réveils par nuit, hein, là, à 2 ans. Donc,
Mais malgré ça, tu me dis, moi j'ai noté, on le couche et on dîne tous les deux. Vous avez quand même ce temps de dîner où vous n'êtes que tous les deux tous les soirs?
Bah non, alors ça dépend. Enfin, c'est très aléatoire. Ça dépend aussi de comment Samuel a passé la journée, de comment il va. Enfin, Samuel, il a un trouble de l'oralité, donc il mange pas du tout la journée à la crèche. Donc s'il rentre, qu'il est affamé, il va manger vite tout seul et du coup, nous, on mange après. S'il est cool, on va manger à trois. Enfin, c'est très aléatoire, mais on peut avoir des moments où on mange que à deux. Oui, bien sûr, ça, on arrive à l'avoir de temps en temps. Mais c'est pareil, c'est un moment où on va manger et puis demain, qui dépose Samuel à la crèche, comment on s'organise, t'as vu, il a mal dormi encore, pourquoi il a mal dormi, qu'est-ce qu'on pourrait faire, et puis on parle de Samuel en fait.
D'accord, c'est vraiment, il prend toutes vos conversations.
Ouais.
Donc toi, tu as conscience aujourd'hui qu'il prend une place, en fait, que c'est un enfant qui prend trop de place et qui est venu effacer, en fait, vous êtes papa et maman et vous n'êtes plus du tout amant, vous n'êtes plus du tout conjoint-conjointe, homme et femme.
Complètement. Et puis les seuls. Alors après, on s'autorise bien sûr tous les deux chacun des moments seuls. Moi, je vais sortir faire du spa ou voir des copines ou aller au spa. Florian, il voit ses copains, etc. Donc ça, on se l'autorise. Mais ça reste. Enfin voilà. Et puis alors, Florian, dès qu'il sort pour aller faire du sport, il culpabilise de pas être là parce que du coup, si ça va pas, il est pas là. Enfin, donc c'est même pas des moments de plaisir. Enfin, c'est même pas des moments où il arrive à profiter. Moi encore, j'y arrive parce que j'arrête de culpabiliser et qu'il faut vivre. Hein. Mais Samuel, c'est ça, c'est devenu notre seule et unique raison de vivre, quoi. Enfin...
Je te pose une dernière question. Tu nous as dit que toi, tu avais été aidée quand tu as fait ta dépression postpartum. Tu as été suivie. Est-ce que, de son côté, Florian, il a été suivi, il a pu avoir un sas dans lequel il a pu parler, dire ce qu'il avait vécu, ce qu'il ressentait?
Moi, j'ai commencé mon suivi à 5 mois postpartum et je le suis encore. Je suis encore suivi. Florian a commencé une thérapie il y a à peu près 1 an et demi avec une première thérapeute, ça s'est pas bien. Une deuxième thérapeute avec qui ça s'est pas bien passé non plus. Alors, quand je dis pas bien, c'est juste qu'il investissait pas les séances. Hein. Enfin, il était pas prêt. Et puis, j'ai fini par lui imposer une thérapeute que je connais et où j'avais envie qu'il aille la voir et avec qui ça se passe très bien. Donc, ça fait à peu près 1 an que là, qu'il voit quelqu'un à raison de toutes les 3 semaines, je pense. Et l'objectif, c'est de travailler sur pour lui-même, hein, sur sa confiance en lui et le lâcher prise. Et d'arrêter de penser que tout est dû à lui. Parce que ça, Florian, il a tendance à... Si Samuel dort pas, c'est à cause de moi. Si on n'a pas mangé, c'est à cause de moi. Si on peut pas sortir, c'est à cause de moi. Il porte le poids de tout sur les épaules.
Ouais, ce que je voudrais juste te dire avant de donner la parole à Marie-Lise, c'est que, enfin, vous félicitez vraiment tous les deux, entre guillemets, du cœur que vous mettez à l'ouvrage. On parle souvent avec Marie-Lise d'une des clés qui est la volonté d'aimer et puis d'être acteur de son couple. Et on sent que vous, effectivement, vous êtes pris dans une spirale vraiment compliquée de laquelle vous avez du mal à sortir. Mais en même temps, on sent que vous en avez envie, que vous donnez quand même les moyens en ayant chacun un suivi. Donc, vous comprenez qu'il y a des choses qui sont pas alignées, qu'il y a un équilibre qui n'est pas là. Donc, en plus de le constater, vous mettez en place des moyens pour avancer. Donc, déjà, franchement, bravo là-dessus. Et je trouve que ça donne vraiment espoir pour que vous arriviez à retrouver une sérénité entre vous et la vie de couple dont vous rêvez. Eh bien, écoute, Marie-Lise, on a hâte d'entendre ce que tu vas partager à Manon, ce que tu vas nous partager à tous.
Merci pour ce témoignage très touchant et qui résonne avec tellement d'autres histoires que je peux avoir au cabinet. Moi, ce que je tiens à dire, à te dire et à toutes les personnes qui nous écoutent, c'est aussi... comment la grossesse et l'accouchement, ça peut être aussi un événement complètement traumatique. Et je trouve ça important de pouvoir le rappeler parce que on le cache souvent avec l'image très dorée. On voit toutes ces influenceuses qui ont ses bébés où tout va bien et où tout c'est nickel. Et en plus, souvent, enfin, je le vois avec toutes les mamans que j'accompagne surtout, c'est comment aussi on n'ose pas forcément en parler. On n'ose pas dire qu'on galère. On n'ose pas dire à quel point c'est compliqué, à quel point c'est lourd, alors que vraiment, ça peut être très, très, très difficile. Donc c'est important de pouvoir dire ça, parce que c'est vraiment le début aussi de ce qui a été compliqué, aussi bien dans vos relations familiales avec votre fils, mais aussi avec ton conjoint. Et je ne sais pas comment vous travaillez ça avec vos thérapeutes réciproques, mais je me dis la base peut-être avant tout, c'est comment on peut aussi un peu guérir ce trauma, parce que je pense qu'on peut réellement parler d'événements traumatiques avec un accouchement qui est très difficile, ou avec, je pense à des patientes que j'ai pareil, où leur fils a un RGO très important. Et en fait, faut pas oublier que vraiment, je l'ai déjà dit à ce micro, mais le manque de sommeil, c'est un moyen de torture aussi qui est utilisé dans certains pays. Et vraiment, ça peut rendre dingue, en fait, de manquer de sommeil. Et ça peut complètement venir nous démunir au point, comme tu l'as dit, de créer des difficultés à s'attacher au bébé, tout simplement parce qu'on se met en position survie. Tout ce qu'on veut, c'est pouvoir survivre. Et le manque de sommeil nous rend complètement fous, en fait, parce qu'on a l'impression qu'on va mourir, en fait, avec ce manque de sommeil. Et on est un peu partagé en cette envie d'aimer son bébé, d'en prendre soin, et en même temps, il faut que je puisse vivre, moi. C'est vraiment une situation traumatique aussi. Et la première base, je crois, c'est aussi de pouvoir soigner ce trauma pour pouvoir avancer. Parce qu'en fait, tu l'as très bien dit, je trouve, et je le retrouve vers beaucoup de patientes, comment rien que les cris de ton enfant, les pleurs, ravivent ce souvenir traumatique, en fait. Et ça t'empêche d'être bien, en fait. Je sais pas avec quelle méthode elle travaille, ta ou ton thérapeute, mais je sais que l'EMDR, c'est pas mal. Ça sera à l'occasion, je pense, lors d'un autre épisode, de détailler un peu cette pratique. Mais c'est pas mal pour aider aussi par rapport à tout ce qui est trauma. Et c'est comment on va rattacher aussi notre émotion et pouvoir regarder différemment ce qui s'est passé pour que ça vienne plus envahir dans notre quotidien. Donc ça, je me dirais, c'est la base. Et aussi, il y a des thérapeutes qui font des thérapies de couple et qui mêlent la thérapie de couple et la thérapie EMDR. Donc, c'est comment soigner aussi un trauma en couple. Donc, ça existe. Et je me dis, en fait, c'est tout simplement la base, parce que, en tout cas, mon hypothèse, c'est que ce trauma aussi a intensifié la culpabilité que vous avez au quotidien et intensifie votre difficulté à vous séparer. Et je crois aussi, c'est un peu un combat personnel, mais comment aussi le corps médical et le fait que ce soit très médicalisé, ça intensifie aussi notre culpabilité beaucoup en tant que parent. Et ça, c'est quelque chose qui m'attriste énormément, parce que je me dis, on a tellement de connaissances aujourd'hui sur la grossesse, l'arrivée d'un enfant, et comment on accompagne aussi mal les mères aujourd'hui. Enfin, c'est un sujet qui me touche vraiment énormément. Et je crois qu'il y a ça aussi à travailler, c'est comment se dire, en fait, c'est pas que je suis une mauvaise mère, mais j'ai pas été aussi accompagnée dans les bonnes conditions. Parce que on nous aide pas, Soazic, elle a parlé d'être acteur, mais je trouve que dès la maternité, on nous aide pas à être acteur. On nous pointe juste souvent comme défaillants, ou c'est pas assez, et on nous pointe tout ce qui va pas, et on nous met pas dans l'action. Tu l'as très bien dit à plusieurs reprises dans ton dans ton témoignage, mais par exemple avec l'allaitement, comment ils t'ont pas soutenu, comment ils t'ont fait culpabiliser, et même le fait que tu ne saches même pas si ton bébé va bien, enfin, t'es complètement soumise à l'injonction médicale, en fait. Et tout ça, ça va rajouter encore plus sur la culpabilité, sur la pression, sur le trauma aussi. Donc c'est aussi comment pouvoir retrouver de la confiance par rapport à tout ça et se dire bah j'ai pas été encadrée aussi, en fait ça c'est pas forcément que de ma responsabilité, j'ai pas été encadrée dans les meilleures conditions et j'ai pas été soutenue, alors que c'est un moment de notre vie où on est en grande fragilité, où on a besoin d'être entouré d'un cercle bienveillant et d'amour, et ça je l'ai pas eu en fait, tu vois, au-delà de ce que ton fils a pas eu, vous aussi en tant que parent pouvoir se redire moi j'ai pas eu ça et j'aurais eu besoin de ça et c'est pas normal et c'est injuste aussi que j'ai pas eu ça, et ça m'a pas permis de pouvoir accueillir ce bébé non plus dans les meilleures conditions. C'est un peu en fait comment on peut remettre à sa place la responsabilité de chacun pour arrêter de tout porter aussi. Parce que je me dis que cette culpabilité aussi, comme il le dit en fait et il l'entraîne, c'est comment, là on se dit, et je crois que le poids de la société aussi, où on est vraiment en fait, où on est aussi un cercle très restreint, où on n'est que les parents, où faut qu'on fasse tout pour que notre enfant soit parfait, et puis qu'après il fasse des grandes études et machin, enfin je pars loin, mais où faut qu'il soit bien quoi, et chaque chose de s'il marche bien, ou s'il a un pied qui va de travers, ou s'il a une mauvaise vue, ou un truc, bah c'est nous, on n'a pas diagnostiqué assez vite, c'est pouvoir aussi un peu lâcher par rapport à ça. Donc pouvoir un peu, je crois en tout cas même pour lui, comment il va mettre de la distance et pouvoir lâcher par rapport à cette culpabilité avec ce chemin de guérison au cours du trauma. Je me dis ce qui est important par rapport à votre vie de couple, tu l'as dit un peu, tu l'as abordé, lui il en parle au moins, mais que vous puissiez au moins vous poser sur savoir justement quel cadre, quelle place vous laissez aujourd'hui à votre couple et à votre fonction de parent. En fait, moi ce que je pense réellement, c'est que vous n'avez pas eu le choix en fait. Vous êtes mis en mode survie. Et ça a été nécessaire à la fois pour votre couple et pour votre fils, pour qu'il puisse évoluer et grandir, d'être au taquet. Lui, il n'a pas eu le choix parce que toi, pour réussir à rester en vie, bah, c'est peut-être la dépression qui t'a permis, en fait, c'est bizarre dit comme ça, mais de tenir pour ne pas mourir, en quelque sorte, de te mettre ce retrait, en fait, un peu psychique, t'a permis de tenir d'une certaine façon. Et lui, il a dû être en hypervigilance encore plus présent. Donc, c'est une posture de survie que vous avez adopté tous les deux, qui a été nécessaire, en fait. Et c'est peut-être aujourd'hui pouvoir se dire, bah, les cartes ont changé, et comment on fait pour changer de plus être dans ce mode survie? Et c'est un petit peu, en fait, tu sais, ça me fait penser, comme j'ai travaillé avec des militaires, mais quand ils ont eu des événements traumatiques, ils ont été sur des zones de combat et tout ça, quand ils reviennent, où ça se calme, en fait, ils sont toujours en alerte, en hypervigilance aussi, en lien avec le trauma. Et c'est comment vous aussi, vous pouvez vous dire, mais en fait, je peux m'autoriser maintenant à lâcher les armes. En fait, il a peut-être moins besoin d'hypervigilance. Ça a été nécessaire de faire ça à un moment, mais c'est plus nécessaire aujourd'hui d'être autant dans cette attention, dans cette fusion, dans tout ça. Je crois que ça va être aussi progressif, et ça va être avec ce traitement aussi de trauma que ça va être plus facile, mais comment on peut changer nos habitudes très progressivement? Parce que je crois que c'est ça aussi, vous n'avez pas eu le choix, je crois que c'est vraiment important d'insister sur cette posture de survie, et on a mis en place des choses, des réflexes, et c'est comment aussi on va perdre progressivement ces réflexes, et c'est important de le faire de façon très progressive, parce que il y a aussi, en se décalant très progressivement, on peut voir aussi la culpabilité qui augmente, parce que là on est en mode super papa, super maman, et plus on lâche, on dit mais en fait, est-ce que je suis toujours un super papa ou une super maman si je lâche moi progressivement cette posture que j'ai eue pour maintenir mon fils en vie, pour qu'il soit bien, pour qu'il puisse bien grandir en fait. Donc c'est de le faire de façon très progressive. Mais je pense que avant tout, c'est comment vous allez parler. Enfin, faut qu'il y ait en tout cas une discussion première avec ton conjoint sur bah, quelle place on veut donner à notre couple? Est-ce que, en fait, elle a un peu déjà dissuasique, mais est-ce qu'on a le désir tous les deux de lui laisser une place? Un peu. Ok. Est-ce qu'on est d'accord sur le fait que maintenant, aujourd'hui, en fait, au début, les bébés dans les premiers mois de vie, plus ou moins longtemps, en fonction de difficultés qu'il peut avoir, mais c'est lui un peu qui a le pouvoir dans la famille parce qu'on s'adapte à lui et à tous ses besoins. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Et donc, c'est aussi vous qui pouvez redonner du lead à votre vie de famille et à vos vies de couple. Et c'est peut-être parler ensemble de bah, quelle place on a envie de lui donner à notre enfant et quelle place on a sur notre couple et qu'est-ce qu'on a envie de lui transmettre sur l'importance du couple. Je trouve ça très important par rapport justement à ce que tu as dit. Je me rends compte que je suis en colère, mais que la réalité, c'est que j'ai besoin d'amour et d'affection. Et c'est peut-être de pouvoir parler de ça et de pouvoir se dire, bah, en fait, notre fils, il a besoin de ça aussi parce que la base de l'arrivée de notre enfant, c'est notre lien et notre amour. Donc, c'est comment rappeler que ce socle-là, il est primordial, et comment on va le nourrir. Donc, mais au moins, juste déjà poser des mots à deux sur ça, et comment par ricochet aussi, il va recevoir de l'amour par cet amour qu'on se donne. comment ça va pouvoir aussi le faire grandir, lui, et le rassurer en voyant que ce socle, il est stable. Parce que moi, ce qui me fait peur, en fait, le risque, je trouve que tu l'as très bien dit, c'était hyper juste ce que tu pouvais dire, c'est qu'en fait, c'est vraiment ça, j'ai besoin d'amour, d'affection, mais comme tout le monde, on a besoin de remplir notre réservoir. Et en fait, ce que j'observe beaucoup, c'est que on a tous besoin de remplir ce réservoir, mais en s'éloignant et en ne soignant pas notre relation, ben, on va remplir ce réservoir affectif avec la relation qu'on a avec nos enfants. Sauf qu'en faisant ça, on les met pas à la bonne place. En fait, on va lui demander à lui de nous remplir d'amour en nous faisant, enfin, c'est pas que je dis qu'il faut pas faire de câlins à ses enfants, c'est pas ça, mais en lui demandant de la tendresse, de l'attention, et il va venir nous remplir, ça nous apporte de la joie et de l'amour à un enfant, mais il va remplir quelque chose qui c'est pas à lui de remplir. Et ça, c'est potentiellement dangereux aussi, à la fois, bah, pour lui, parce que ça le met pas à la bonne place. En gros, ça le rend responsable du bonheur de ses parents, alors qu'il n'a pas à être responsable du bonheur de ses parents. Et donc, c'est ça aussi, je pense qu'il faut bien dire à, peut-être à ton conjoint, pour qu'aussi il puisse se dire, bah, en fait, être un bon papa, c'est aussi prendre soin de ma relation de couple, vu qu'il est dans cette inquiétude par rapport à ça. Et en fait, ça va pas le rendre moins bon père s'il est pas tout le temps présent. Au contraire, en fait. Voir un parent heureux, ça rend aussi son enfant heureux. Et après, c'est comment petit à petit, là, on va en parler plus précisément, mais vous allez pouvoir mettre en place des petites habitudes pour pouvoir vous décaler progressivement et faire ça petit à petit. Enfin, je le redis, mais on le re-redit à chaque épisode, hein. C'est cette idée, ça va être de le faire de façon très progressive parce que, justement, se donner des petits objectifs petit à petit et de pas se lancer dans des grands objectifs tout de suite, sinon on se démoralise et y a rien qui aboutit. Donc, c'est y aller de façon très progressive et que vous soyez aligné aussi par rapport à ça. Donc, par exemple, moi, je pensais ne serait-ce que juste, on parlait de la tendresse, là, de l'affection, de comment est-ce qu'on peut remettre de la tendresse dans notre quotidien. On en parle beaucoup avec Soazic, mais ne serait-ce que, est-ce que le soir, quand il rentre, est-ce que je prends juste le temps de l'embrasser et de le regarder droit dans les yeux? Juste ça. Ça prend 2 minutes. Mais déjà, on recrée une connexion, on se redit, je suis là, tu es là, je prends juste le temps de t'embrasser, de regarder dans les yeux. Et la première chose qu'on échange, ce n'est pas est-ce qu'il a bien dormi, est-ce qu'il a bien mangé aujourd'hui. De toute façon, on sait que tous les jours, il mange pas à la crèche et que c'est comme ça. Donc, en fait, c'est juste se remettre du mouron par-dessus, en fait. C'est aussi parfois comment se dire on s'autorise à lâcher prise parce que concrètement, ça va rien changer qu'on commence à parler sur ça. C'est plus facile à dire qu'à faire, hein, parce que ça prend la tête, on a envie que nos enfants, ils aillent bien et qu'ils soient en bonne santé. Mais peut-être se dire, bah, en fait, est-ce qu'on peut se dire, on parle là de, par exemple, tu as parlé de l'alimentation, mais bah, en fait, on n'en parle que s'il y a un changement important, qu'il soit positif ou négatif, que vraiment, j'en sais rien, il était très mal à la crèche aujourd'hui toute la journée, bah là, on en parle, mais si c'est comme d'habitude qu'il a rien mangé, ça sert à rien de ressasser, de ressasser, de ressasser. Et de pouvoir se dire, bah, comment aussi on peut se poser une question sur nous. Et parfois, on a envie tout de suite de savoir comment ça s'est passé pour notre enfant et tout ça, de se dire, bah attends, non, je me retiens là, je mange ma langue, je la tiens. Et peut-être d'abord, comment on peut se dire, bah, comment s'est passée ta journée, ou au moins pouvoir s'accorder un moment où on va parler aussi de notre vie d'adulte. Et c'est comment, justement, là, progressivement, on va le faire quitter cette place où il est tout en haut, l'enfant. Où c'est lui qui a le pouvoir, en fait. Il domine tout. Il domine notre temps, notre organisation du temps et nos conversations. Autant au début, bah, c'est aussi logique, il y a des liens, mais c'est aussi comment on va changer de place progressivement pour repasser aussi nous au-dessus. Et en étant, le chef de la tribu, si on peut dire. Et c'est nous qui menons la danse. Donc, par rapport à ça, déjà, les petites marques d'attention et recréer du lien. Même dans les conversations, de prendre du temps ensemble. Soazic l'a dit, par rapport au dîner, ça peut être... c'est quelque chose qui nous tient à cœur, nous, de pouvoir aussi dîner en tête-à-tête, en amoureux, hein, ou 2 soirs par semaine. Peut-être que vous pouvez aussi ritualiser davantage vos soirées. En fait, je comprends que vous êtes crevés. L'idée, c'est pas de se rajouter des contraintes et que ce soit plus compliqué. Mais est-ce que c'est juste... peut-être que le repas, c'est un peu à l'arrache, on voit. Mais est-ce que c'est juste le dessert qu'on prend vraiment à table tous les deux et où on se pose? En fait, c'est vraiment ce qu'on a dit, des petits objectifs, mais c'est juste de prendre peut-être 1 quart d'heure tous les soirs où on se pose vraiment l'un avec l'autre et où on ne parle pas de votre fils. Vous ne parlez pas de votre fils. Vous dites, de toute façon, là, concrètement, ça ne va rien apporter de plus. Et pourquoi pas même se mettre carrément des temps, se dire, bah là, j'ai une idée par rapport à son sommeil pour qu'on puisse améliorer les choses, j'ai lu un article, tout ça. Bah, on en parle à tel moment, à ce moment-là. En fait, c'est aussi pouvoir cercler les moments où on parle de nos projets d'évolution par rapport à lui pour éviter que ça vienne tout envahir. Comment on peut cercler et cadrer les temps où on va parler de nos projets aussi éducatifs pour éviter que ça prenne toute la place. Et je me dis, il faut que vous puissiez explorer de nouveau le plaisir d'être à deux. Je trouvais ça très chouette aussi que tu puisses dire, bah, en fait, on sait même plus comment faire de pouvoir se retrouver, parce que ça, je l'entends tous les jours, en fait, au cabinet, ces propos-là. Et concrètement, quand vous allez vous retrouver de nouveau à deux, bah, au début, ça va limite être un peu bizarre, quoi. Voire peut-être même un peu chiant, quoi. Genre, bah, je sais pas quoi dire, je suis un peu gênée. Et en fait, c'est normal. Parce qu'il va falloir reprendre cette habitude. Je pensais à ça, là. Peut-être, je sais pas dans quelle mesure c'est possible que vous puissiez, là, comme je vois que le mardi, tu es chez toi. En fait, faut retrouver le plaisir avant déjà de se questionner sur la problématique de garde de votre fils. Est-ce que le mardi, tu peux le rejoindre pas trop loin de son boulot et vous déjeuner ensemble, par exemple, le mardi midi? De retrouver des moments et vous faites un peu du teasing. Vous faites monter la sauce aussi par rapport à ça. Pour qu'il y ait aussi cette idée de se dire, bon, on va créer un moment pour nous. C'est chouette. Ça va être sympa. Quel resto on se fait? C'est toi qui organise cette fois ou c'est moi? Enfin, comment est-ce qu'on fait par rapport à ça? Vous pouvez commencer par ça, par passer juste un petit peu de temps ensemble. Après, ça peut être aussi vous dire, bah, pourquoi pas, on poserait pas une journée ou une demi-journée pendant qu'il est à la crèche. Vous avez confiance pendant qu'il est à la crèche. Donc ça, ça peut être possible. Ou une journée, vous quittez le travail une à deux heures plus tôt, ou votre fils y reste une heure plus tard à la crèche et vous passez du temps ensemble. Déjà, il y a des choses comme ça qui peuvent être possibles, en fait. On le dit souvent, hein, parfois c'est compliqué de faire garder ses enfants, mais quand on a le désir et qu'on a l'envie, tu vois, on trouve des petites solutions. Là, déjà, c'est des petites clés sans que tu aies besoin de le faire garder par quelqu'un d'autre, où c'est possible. Et après, en fait, c'est comment, voilà, tu vas augmenter progressivement. Là, vous dites, ben ouais, en fait, c'est vachement chouette de passer du temps ensemble. Donc, faut qu'on en fasse plus. Tu vois, c'est comment on fait monter le désir d'abord avant de se dire, oulala, déjà, ça va pas être très sympa de se retrouver parce que ça fait longtemps, donc on va pas savoir qu'à se dire, il va pas y avoir trop d'intensité et de désir. Et en plus, je dois laisser mon enfant alors que ça me fait trop peur. Donc, déjà, retrouver ce plaisir. Et après, vous passez à l'étape suivante où vous pouvez faire garder par quelqu'un. Et ça, ça peut être une idée si vous avez confiance avec le personnel de la crèche. Parfois, il y en a dans le personnel de la crèche qui font des extras à l'extérieur. Donc ça peut être une idée aussi de demander à une personne à la crèche est-ce qu'elles font des extras à l'extérieur et que ça serait possible de les prendre pour garder à domicile votre enfant. Pareil, on commence par une heure ou deux en journée et pas forcément le soir où c'est compliqué par rapport au soir. Tu parlais de ton frère aussi où ça peut être une bonne ressource. Il me semble que tu l'as pas dit là, mais qui vit à l'étranger. Ça peut être l'occasion aussi de partir à l'étranger tous les trois et puis vous faites des échappées en amoureux 2-3 heures la journée pendant qu'il le garde. Et ça peut être un moment aussi de créer des bons souvenirs dans un contexte aussi sympa. Donc voilà, ça c'est tout ça par rapport aux habitudes, on va dire, d'un point de vue plus comment les comportements qu'on peut mettre en place. Et je pense, l'autre point qui était important pour moi, c'est quels échanges vous allez avoir tous les trois avec votre fils. Par rapport aussi à cette culpabilité, en fait, pour pouvoir vous en libérer. En fait, c'est comment, peut-être que vous l'avez déjà fait, hein, mais on peut prendre un album photo, parler de la grossesse, parler de son arrivée, parler de son histoire et dire, bah, tu sais, ça a été très compliqué pour moi. Et heureusement que ton papa, il était là parce que pour moi, c'était difficile aussi, enfin, de pouvoir parler avec des mots d'enfant, mais de cette dépression et dire, bah, j'étais très triste à ce moment-là, mais aujourd'hui, c'est différent. Et enfin, expliquer un peu son parcours et par quoi il est passé pour qu'aussi vous pouviez, enfin, pour que vous puissiez, pardon, faire la paix un peu tous les trois sur cette histoire et aussi pouvoir lui dire, bah, en fait, tu sais, t'as pris beaucoup de place dans notre vie, parce que c'est normal, on t'aime, et que t'avais besoin. C'était compliqué pour toi ton arrivée au monde, et ça a été très stressant. Et aujourd'hui, on a confiance en toi, on sait que tu grandis bien, que tu vas mieux. Et c'est le moment aussi pour papa et maman de pouvoir se retrouver, pour ton papa et ta maman. Parce qu'en fait, tu sais, la base d'une famille, eh ben, c'est le couple. C'est aussi ça, parce que, en fait, par tout l'amour qu'on va avoir, bah, c'est comme ça qu'on t'a créé déjà. C'est par tout l'amour qui nous a unis. Et en fait, faut que tout cet amour, elle puisse toujours être présente dans la maison, en fait. Parce que c'est comme ça aussi qu'on va être heureux. Donc, pouvoir aussi en parler avec votre enfant de ça. Je me dis, c'est important. Et même pour que lui puisse comprendre. Et comment progressivement, vous allez aussi pouvoir lui dire, en fait, il y a un temps pour les enfants et puis il y a un temps pour les parents. Et ce temps-là, il est nécessaire et il n'est pas négociable, en fait. Et il sera différent, il va évoluer, on t'en parlera. Mais en fait, il y a besoin aussi des moments pour se retrouver, pour être en amoureux. Il y a même des livres qui en parlent très bien. Je pense même dans l'album « Mon amour », je crois qu'elle le dit à un moment aussi. « J'aime beaucoup quand je passe du temps avec toi, mais aussi quand je suis sans toi » à son enfant. Je trouve qu'il est très beau aussi, cet album. Et ça peut être des moyens d'en parler aussi avec l'enfant.
Merci Marie-Lise. Au combien je valide tout ce que tu as pu dire sur l'importance accordée à son couple et la place de l'enfant et tout le bénéfice qu'il peut en avoir d'être à sa juste place. Plusieurs fois, tu vois, j'ai les frissons qui me sont montés en imaginant, toi Manon avec Florian, un peu cette nouvelle page de votre histoire que vous avez à écrire, retrouver cette histoire de couple, redonner à votre enfant sa place, relire avec lui son histoire tout en lui expliquant, et ce bonheur que ça va être pour lui quand vous allez lui dire, ben voilà, on a besoin de passer du temps ensemble tous les deux, on veut s'aimer bien pour t'aimer mieux, tu vois, tout ce que vous allez pouvoir lui apporter avec ça. Tu vois, je suis émue de cette histoire, enfin de cette porte qui s'ouvre à vous, mais avec votre volonté surtout d'y arriver. Moi, ce que je veux retenir, c'est la première action que Marie-Lise vous a donnée, c'est de vous poser tous les deux et de parler de vos besoins d'aujourd'hui. Je pense qu'effectivement, commencer par là, avant même de trouver la babysitter en qui vous avez confiance, vraiment déjà vous poser tous les deux dans votre salon, si c'est possible autour d'un beau moment, et de vous parler de ça, de vous deux, de vos idées, de vos besoins, de vos craintes. Et pourquoi pas, en ayant écouté cet épisode ensemble ou chacun de votre côté, ça peut vous permettre d'amorcer la discussion. Voilà, moi ce que je voulais dire après ce que Marie-Lise avait dit, est-ce que Manon, en quelques mots, tu peux nous dire comment tu te sens?
La première chose que j'ai envie de dire, c'est que quand je t'écoutais, Marie-Lise, je me disais qu'en fait, que ce soit mon fils ou mon conjoint, il ne me manque plus. J'ai envie de retrouver ce côté, ça me manque, j'ai envie de les retrouver, j'ai envie de le voir. Et donc, je pense que Samuel, j'ai envie de retrouver mon conjoint en tant que femme et pas en tant que mère. Et j'ai envie que mon fils me manque. Et du coup, j'ai aussi envie d'attendre ces moments. Je me sens... j'ai envie de prévoir tout ça et d'être dans l'attente, d'être dans l'excitation. Et j'ai envie de mettre toutes ces petites choses en place qui sont faciles à mettre en place. Enfin, aller manger avec lui le midi ou rentrer un peu plus tôt... À la crèche, ils sont d'une bienveillance incroyable parce qu'ils m'ont vu en dépression postpartum, donc ils savent que c'est compliqué. Et ils sont totalement disponibles pour nous aider là-dessus. Donc je suis sûre que si je leur demande de le prendre une heure de plus le soir, ils le feront. Et j'ai vraiment hâte de mettre tout ça en place. Et ça me donne, ça me donne envie, quoi. Au lieu de le voir comme, jusqu'à maintenant, je voyais tout comme une corvée, ça allait être difficile, ça allait être compliqué. Et là, c'est plutôt, j'ai hâte. J'ai hâte que tout ça se mette en place et se passe. Et je suis sûre à 1000% que Florian a hâte aussi et qu'il sera prêt à mettre tout ça en place et qu'il en aura envie.
Bon, bah écoute, canon. Et j'ai envie de te dire, au moment où la culpabilité va revenir, parce que c'est très vicieux la culpabilité, dans ces moments où vous serez en action, dites-vous bien que ce que vous faites pour votre couple, vous le faites pour votre enfant. L'amour que vous mettez dans votre couple entre l'un et l'autre, ce temps que vous passez à deux, c'est du temps que vous passez pour votre enfant, pour son bonheur, pour le fait qu'il soit serein, qu'il se sente en sécurité dans le couple de ses parents. Donc vraiment, ayez ça en tête, que ça ne vous quitte pas. Martelez-vous ça, écris-le s'il y a besoin, mettez-le dans un endroit visible de votre salon. Mais ce que l'on fait pour notre couple, on le fait pour notre enfant. Je pense que ça peut vraiment être un mantra aujourd'hui qui va vous aider.
Mais de toute façon, tout ce que j'ai dit avant, je le dis aujourd'hui parce que j'en ai eu honte pendant très longtemps de tout ce que j'ai raconté. Enfin, ça a été quelque chose de... J'ai mis beaucoup de temps à le digérer et à l'accepter. Aujourd'hui, je l'ai totalement accepté. Ça fait partie de moi. J'en ai plus honte parce que je me rends bien compte autour de moi qu'il y a plein de gens qui osent pas en parler, plein de mamans qui osent pas le dire. Et pour la petite anecdote, je suis retournée à la maternité pour crier à quel point ça avait été horrible. Je l'ai dit, je l'ai hurlé parce que c'était inacceptable. Et on m'a répondu que la priorité c'était l'enfant et que la maman on verrait plus tard. Et je pense que si on avait priorisé ou au moins mis à égalité le fils et la maman, on n'en serait pas là. Ah, c'est chouette. En tout cas, merci à vous deux pour tous ces conseils, pour cette bienveillance, cette écoute. Douce et vraiment ça fait du bien et on se sent, enfin je me sens plus seule, je me sens plus désespérée et à bout.
Et ça se voit sur ton visage en fait, entre le début de notre de l'enregistrement et maintenant, t'as retrouvé vraiment le sourire. Alors ça, je trouve c'est...
Il y a vraiment ce côté de se dire, je suis pas folle. Enfin, c'est pas moi qui ai un problème, quoi. C'est vraiment ça qui fait du bien, c'est de se dire qu'on n'est pas le premier couple à vivre ça, on sera certainement pas le dernier, même si ce serait bien que ce soit le dernier, mais et on n'est pas seul et on est compris. Enfin, parce que des fois, quand on en parle autour de nous, à des membres de la famille, je dis, mais enfin, Moi, je me souviens pas qu'on ait subi ça, mais enfin, qu'est-ce que vous faites? Mais enfin, c'est dur. C'est dur d'entendre ça. Et merci les podcasts d'exister. Merci à vous d'être là. Parce que je pense que c'est vraiment ça, moi, qui m'a permis de me sortir de ma dépression postpartum et de toute ma culpabilité. C'est les témoignages d'autres mamans.
Mais merci, toi, d'être venue à ton tour, tu vois, donner un témoignage, parce que je ne doute pas que cet épisode va aider certainement beaucoup d'autres couples qui passent aussi par cette étape difficile. Je vois juste au-dessus de Marie-Lise notre livre « Les 5 clés de l'amour durable ». Franchement, je crois que c'est un livre où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de petites idées très pratiques, très concrètes à mettre en place. Marie-Lise, t'en as livré quelques-unes, mais je pense à toi et à tous ceux qui nous écoutent. C'est vraiment un livre où on peut piocher plein d'idées, toutes simples, qui ne nécessitent pas qu'on change toute son organisation. Voilà, j'y pense parce que je le vois là et je me dis, ben, ça peut être une belle ressource aussi pour vous deux à picorer à deux, tu vois, à prendre les idées à deux. Voilà. Merci en tout cas, Manon, de ta confiance et bravo, 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 bravo de vouloir tous les deux comme ça vous mettre de nouveau en chemin pour votre couple et puis de vouloir le meilleur pour lui et puis pour votre petit Samuel. Viens nous donner des nouvelles, on sera vraiment ravis de savoir comment vous arrivez tous les deux à cheminer. Merci Marie-Lise pour ton temps encore aujourd'hui, pour Manon puis pour tous ceux qui nous écoutent. Et puis merci à tous pour votre fidélité. Est-ce utile de le dire, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Si vous avez vraiment 30 secondes après l'écoute de cet épisode pour aller nous mettre 5 étoiles ou même 4 et un petit avis, ou à partager encore mieux l'épisode sur vos réseaux sociaux ou auprès de vos amis, de vos familles, eh bien, il n'y a rien de mieux pour nous remercier de ce temps passé sur ce podcast. Donc voilà, si vous avez 30 secondes, merci à vous. Et puis eh bien, écoutez, on vous donne rendez-vous très très bientôt pour un nouvel épisode de Cœur des couples. Si vous aussi vous rencontrez des difficultés dans votre vie de couple, venez nous en parler. Laissez-nous un message sur aucoeurducouplepodcast@gmail.com ou via Instagram sur la page Au cœur du couple. Nous sommes là pour vous. Merci pour votre écoute et n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à nous mettre des étoiles. Et n'oubliez pas, vous êtes les premiers acteurs de votre couple.